Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe qui vous propose cette semaine de plonger dans les arcanes de la diplomatie européenne. Les 27 sont désunis sur la plupart des grands dossiers qui les mettent sous tension, leurs relations avec les États-Unis, la Chine, la Russie, leur place dans le monde, leur défense, leur migration. Et nous recevons aujourd'hui en duplex depuis Bruxelles le secrétaire général en charge du service pour les actions extérieures, l'italien Stefano Sannino. Bonjour monsieur Sannino.
Vous chapeautez aujourd'hui les 144 ambassadeurs de l'Union européenne disséminés à travers le monde. Votre carrière de diplomate vous a amené à alterner les postes au service de votre pays, l'Italie, ou au service de l'Europe. Vous rejoignez la Commission en 2002. Auparavant, vous avez été entre autres à la tête de la mission de l'OSCE dans l'ex-République de Yougoslavie, où vous aviez aussi été ambassadeur de l'Italie dans les années 90. Vous avez aussi représenté votre pays en Espagne et bien sûr auprès de l'Union européenne. Vous avez été directeur général à la Commission en charge de l'élargissement et puis vous êtes aussi un militant actif de la cause LGBT.
Alors, Monsieur Sannino, l'Union européenne se veut à la recherche d'une autonomie stratégique pour penser le monde et peser sur lui. En attendant, les 27 sont profondément divisés sur les valeurs, avec une Pologne, par exemple, qui vient de rejeter la suprématie du droit européen sur son droit national. C'est quasiment un polexit juridique. Est-ce que nous sommes crédibles sur ce chapitre ?
On essaye de faire de la pression sur ces pays parce qu'ils puissent changer, ils puissent faire, ils puissent revenir vers l'état de droit et vers le respect des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, on demande aux autres pays, à dehors de l'Union européenne, de faire le même, de faire un effort pour revenir sur la ligne de ce qui sont les valeurs fondamentaux et les principes sur lesquels est fondée l'Union européenne.
Alors, Monsieur Sannino, sur un point très précis, un dossier très précis qui vous tient à cœur, hein, c'est celui des droits des LGBT. La Hongrie et la Pologne font l'objet de procédures d'infraction de la Commission à cause de leur législation homophobe. Comment est-ce que la diplomatie européenne peut-elle s'accommoder de cette situation? Comment donner des leçons de défense des droits individuels à l'extérieur, dans les pays tiers, quand ces droits ne sont pas respectés, partagés au sein de l'Union?
L'Union européenne ne s'accommode pas, hein, parce qu'elle demande à ce pays de revenir sur une ligne de cohérence avec les valeurs fondamentaux et l'état de droit que l'Union européenne défend à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est pas question qu'on s'accommode et on laisse faire. Vous avez vu, par exemple, quand ce qui concerne la déclaration d'un certain nombre de régions en Pologne LGBT-free, il y a eu une pression très très forte, et maintenant, comment dirais-je, ces régions sont revenues sur leurs décisions. Donc il faut continuer à pousser. C'est pour cela qu'on peut aussi, vers l'extérieur, continuer à défendre les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence. Ça peut se passer que pour des questions politiques, il y a des pays qui ont un écart par rapport à ce qui est la ligne défendue en termes des valeurs de l'Union européenne. Mais la chose importante, qu'il y ait des mécanismes qui permettent essentiellement à ces pays de revenir sur leurs décisions et à l'Union européenne de continuer à être fondée sur les valeurs que les pères de l'Union européenne ont décidées et sur lesquelles on devait se fonder.
Alors parlons d'un sujet sur lequel vous avez prise véritablement mardi dernier se tenait un sommet annuel UE-Ukraine qui a accouché d'un accord sur le partage de l'espace aérien et d'une aide de 6 milliards d'euros. Mais les Ukrainiens attendent toujours, surtout de l'Europe, un soutien face à la Russie sur la question du Donbass et puis sur la question du gaz aussi. Est-ce qu'ils l'obtiennent? Est-ce qu'ils vont l'obtenir?
Et sur la Crimée aussi, hein. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne n'a jamais reconnu l'annexion illégale de la Crimée et sur tous ces aspects, et aussi sur la question du transit du gaz, l'Union européenne s'est exprimée de façon très très forte en faveur de l'Ukraine. La chose qu'on demande aussi à l'Ukraine, c'est qu'elle s'engage sur la voie des réformes, sur la voie de la lutte contre la corruption, sur l'état de droit, ce qui est pour nous un élément très important parce que l'Ukraine puisse continuer sur son chemin de rapprochement à l'Union européenne. Et le fait même qu'on a un régime de sanctions vis-à-vis un certain nombre de personnes ou d'entités en Russie, c'est très éloquent de ce point de vue.
Alors, l'Europe est aujourd'hui en pleine crise de l'énergie avec des prix qui flambent. L'un des principaux fournisseurs de l'Europe, le russe Gazprom, est accusé de ne pas livrer suffisamment de gaz aux Européens. Selon le représentant de la Russie auprès de l'Union européenne, Vladimir Chizov, la crise serait résolue facilement si l'Europe cessait de traiter la Russie comme un adversaire. C'est ce qu'il indiquait à nos confrères du Financial Times. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je réponds que c'est pas l'Union européenne qui a décidé d'avoir une relation difficile avec la Russie. Je dirais que c'est le contraire. Je rappelle que c'est pas l'Union européenne qui a annexé l'Ukraine, c'est pas l'Union européenne qui a créé une situation d'instabilité dans le Donbass, c'est pas l'Union européenne qui a abattu un avion et n'a pas aidé dans les processus, disons, de recherche et de responsabilité. Et c'est pas l'Union européenne qui ne veut pas essayer d'avoir une relation plus détendue et plus predictable avec la Russie. Nous, de notre côté, et on l'a dit plusieurs fois, et le Conseil européen, le dernier Conseil européen de juin l'a confirmé encore une fois, d'un côté, on ne veut pas et on ne peut pas oublier ce que la Russie a fait en Ukraine. On est très inquiet pour ce qui se passe dans les pays en termes de droits de l'homme, en termes de droits fondamentaux, en termes de droits politiques. Mais en même temps, on a aussi dit à la Russie qu'on veut bien s'engager avec elle et parler avec la Russie sur des thèmes, des sujets qui sont d'intérêt commun. Par exemple, la question énergétique, c'est une question dans laquelle on a des intérêts en commun. Dans la question de la stabilité régionale, on a des régions dans lesquelles, évidemment, la Russie joue un rôle important, alors, la Syrie, la Russie.
Mais alors précisément, sur ce dossier du gaz, est-ce que l'Allemagne n'a pas été toujours un peu pro-russe, favorable à la construction, par exemple, du gazoduc Nord Stream 2 contournant l'Ukraine pour augmenter les livraisons vers les Européens directement? L'Allemagne est en train de négocier une nouvelle coalition. Est-ce qu'elle va jouer plus collectif sur cette question de la dépendance au gaz russe?
La question du gaz est une question très complexe. Je dois dire aussi, même dans la situation actuelle, c'est pas que la Russie ne respecte pas les contrats. Le respect des contrats est garanti, mais disons, elle ne fait pas un effort supplémentaire pour essayer d'aider la situation de l'arrivée du gaz en Europe. Donc on peut lire tout cela évidemment aussi en relation avec ce qui va se passer avec la gazoduc Nord Stream. Ça, c'est une décision commerciale qui a été prise par l'Allemagne à une époque. C'est vrai, évidemment, que les gazoducs ne sont pas neutres du point de vue politique ou du point de vue économique. Mais ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous devons continuer à travailler en ce moment. On espère aussi que cette situation soit une situation conjoncturelle, et qu'on arrive à y faire face et qu'on puisse trouver rapidement des moyens pour assouplir la situation difficile que beaucoup de pays sont en train de vivre en ce moment, avec des mesures que les pays même pourraient prendre et aussi avec des mesures que l'Union européenne pourrait prendre dans le moyen et long terme.
Alors, la Slovénie, en ce moment, préside l'Union européenne. Elle voulait à tout prix obtenir des progrès sur la voie de l'élargissement aux pays des Balkans. Mais le sommet Union européenne-Balkans a une fois encore laissé les 6 aspirants dans l'antichambre du club européen. Explication de Florent Rodot.
Tenter de rassurer des Balkans frustrés sans pour autant leur ouvrir la porte, en Slovénie, Ursula von der Leyen a joué les équilibristes.
Nous les voulons dans l'Union européenne. Nous sommes une famille européenne. Nous partageons la même histoire, nous partageons les mêmes valeurs. et je suis profondément convaincue que nous partageons également le même destin.
Entrés en négociation en 2012 et 2014, le Monténégro et la Serbie attendent toujours la fumée blanche. Pour l'Albanie et la Macédoine du Nord, les discussions n'ont même pas débuté malgré le feu vert de la Commission. Quant à la Bosnie et au Kosovo, ils n'ont à ce stade que le statut de candidat potentiel. Pays hôte de ce sommet, la Slovénie voulait une adhésion d'ici 2030 non de l'UE, qui répond qu'elle va discuter sur sa capacité à intégrer de nouveaux membres. Si les États membres de l'UE ne semblent pas pressés de les intégrer, c'est qu'ils ont de fortes réticences. Les Balkans occidentaux, c'est un lieu de passage pour beaucoup de migrants qui veulent rejoindre l'Europe centrale. Des pays aussi où le PIB par habitant est en moyenne 3 fois inférieur à celui d'un Allemand et où l'état de droit n'est pas toujours respecté selon l'Union européenne qui conditionne leur adhésion à des réformes fondamentales. En attendant, elle promet des moyens inédits pour connecter les Balkans à l'Europe, un plan de 30 milliards d'euros sur 7 ans. Le risque désormais pour l'UE que ces 6 pays des Balkans se tournent vers ses concurrents, la Russie et la Chine en tête, qui pendant la pandémie de Covid-19 ont inondé cette région stratégique de millions de doses de vaccins.
Stefano Sanino, laisser tous ces pays dans l'antichambre, c'est, on l'a entendu, hein, laisser la Russie et la Chine étendre leur influence, n'est-ce pas contre l'intérêt de la diplomatie européenne ?
Disons aussi que c'est un choix aussi de ces pays où ils vont se placer, s'ils se placer dans un contexte européen ou essayer de jouer autre chose. Je dois souligner dans ce contexte que par exemple le premier ministre albanais a été très clair en disant que la place de l'Albanie c'est avec l'Union européenne sans ambiguïté. Et la même chose de la Macédoine du Nord. Donc c'est aussi un choix politique que ces pays sont en train de faire. Et c'est évident qu'on a un intérêt comme Union européenne d'avoir ce pays au sein de l'Union européenne même. Ce sont des pays qui ont des frontières avec nous, qui sont entourés d'autres pays de l'Union européenne. Donc c'est seulement naturel que l'évolution soit une entrée de ces pays comme membres de l'Union européenne à terme. C'est vrai aussi, et ça c'était aussi un peu la question qui a été débattue à l'occasion de cette réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement, c'était aussi question de l'étendue de la volonté de ce politique de ces pays, de la capacité d'aller de l'avant en ce qui concerne l'état de droit, en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Il y a dans ce contexte et deux pays, l'Albanie et la Macédoine du Nord, qui effectivement ont fait un travail très remarquable. Il faut voir ce qui se passe en termes de vetting des juges en Albanie pour comprendre l'étendue de cette réforme qui est en train de se passer dans ces pays. Et ça, c'est effectivement quelque chose à laquelle l'Union européenne doit trouver une réponse et on n'a pas encore réussi à le faire. C'est vrai qu'il y a des pays très clairement sur une voie européenne et c'est envers ces pays qu'on a une dette en particulière qu'on doit essayer d'honorer.
Alors, parlons justement aussi de l'influence de la Chine. Les États-Unis voudraient mobiliser leurs alliés européens. Josep Borrell, d'ailleurs, était à Washington cette semaine. Est-ce qu'on a intérêt à s'aligner vraiment sur les Américains et ou alors à développer face à la Chine une stratégie plus autonome au regard, par exemple, du coup de poignard dans le dos que les Américains et les Australiens viennent de mettre aux Français sur des questions de défense ?
Oui, je ferai un peu une distinction entre la question plus, je dirais, bilatérale et ce qui s'est passé avec la question du sous-marin. Et je comprends l'amertume aussi de la France à cet égard. En ce qui concerne la stratégie envers la Chine, je crois que l'Union européenne a été très claire dès le début, avec beaucoup de cohérence. Elle a dit dans le temps, et ça fait quelques années, qu'on dit que la Chine est en même temps un partenaire dans un certain nombre de dossiers où on a un intérêt commun, est un rival systémique et c'est aussi un competitor dans le sens que économiquement c'est un pays qui a une capacité économique et une capacité aussi pour ses propres caractéristiques de économie, pas de marché, mais une économie dans laquelle il y a une intervention de l'État, de faire des choix et des décisions qui ne créent pas une situation d'égalité quand on joue dans la compétence internationale. Donc, disons, cette idée d'avoir la Chine comme un partenaire, un competiteur et un rival, c'est un peu le principe sur lequel on a établi notre politique vis-à-vis la Chine. Je note que par rapport à l'administration précédente, l'administration Biden a reflété un peu cette tripartition, donc ce modèle aussi dans la façon dans laquelle elle essaye de travailler avec la Chine. Nous, de notre côté, continuons à penser qu'on ne doit pas exclure la Chine dans le contexte international. C'est un grand pays, c'est un pays qui a une capacité importante, qui peut être un partenaire très important, mais il faut aussi être clair sur le fait qu'il y a certains éléments politiques, respect des droits de l'homme, et aussi question économique, comment on gère l'économie dans un système dans lequel l'État intervient très fortement, qui ne sont pas en ligne avec nos systèmes. Donc on se préoccupe et on essaie d'éviter que la Chine puisse prendre un avantage de sa manière de gérer l'économie par rapport à l'Union européenne.
Stéphane Sanino, le temps presse. Je suis désolée de vous interrompre, mais on arrive bientôt au terme de l'émission et il y a quand même un dossier qu'on avait vraiment envie d'aborder avec vous. Aussi, c'est celui des relations avec les talibans afghans. Les Européens les ont rencontrés, ont rencontré leurs représentants au Qatar cette semaine. Et des talibans qui menacent les Occidentaux d'une vague de réfugiés s'ils refusent de lever les sanctions économiques. L'Union européenne, de son côté, insiste beaucoup sur l'aide aux pays voisins et à l'Afghanistan. Alors, on a l'impression que le but ultime de la diplomatie européenne maintenant en Afghanistan, c'est d'avoir le moins possible de réfugiés afghans. C'est bien ça? C'est ce qu'il faut comprendre?
Non, pas du tout. Le but fondamental, c'est d'essayer d'éviter l'affrontement de l'Afghanistan et un collapse des institutions qui puisse avoir un impact sur la population afghane. Un des principes qu'on a défendu dès les débuts, que l'Union européenne et les pays occidentaux ne restaient pas en Afghanistan du point de vue militaire, mais qu'ils n'abandonnaient pas le peuple afghan. Donc c'est ça le but fondamental de notre travail, c'est celui de donner une option, une possibilité aux Afghans de continuer à vivre dans leur pays. Évidemment, on doit faire face au fait qu'il y a un gouvernement et des autorités avec lesquelles on ne veut pas travailler trop étroitement. On dit toujours qu'on doit parler avec eux, qu'on doit s'engager avec eux, mais qu'on ne les reconnaît pas. Et qu'on doit, la reconnaissance, c'est lié à un certain nombre de critères qui ont été fixés par le Conseil de l'Union européenne. Et entre ça, c'est le respect des droits fondamentaux, surtout des femmes et des enfants. C'est la question d'avoir un gouvernement inclusif, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la possibilité de donner accès à l'aide humanitaire de forme non discriminatoire. Donc, sur ce principe, on va juger les nouvelles autorités et voir comment on peut continuer à travailler avec eux, je répète, dans l'intérêt du peuple afghan. Évidemment, on est aussi inquiet des conséquences qu'un affrontement du pays pourrait avoir en termes aussi de migration comme de terrorisme.
Stefano Sanino, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc le secrétaire général du Service européen des affaires extérieures. Merci à vous les auditeurs. Restez avec nous sur RFI pour le point sur l'actualité. À bientôt.
Suis la flèche.